Chapitre 2. Le village était enseveli sous une épaisse couche de neige, et au tournant des chemins, les vagues blanches poussées par le vent avaient déferlé jusqu'aux fenêtres des maisons. Les étoiles du chariot semblaient pendre comme des stalactites du ciel d'acier, où scintillaient de feux glacés l'Orion. La lune était couchée, mais la nuit restait lumineuse, et les façades blanches des maisons paraissaient grises entre les ormes. Les arbustes se détachaient en noir dans cette clarté diffuse, et les rayons qui filtraient par les fenêtres basses de l'église s'épandaient en nappes jaunâtres sur les boutonnements innombrables de la neige. Le jeune Ethan Frome avançait d'un pas rapide dans la rue déserte. Il dépassa la banque, le nouveau magasin tout en briques de Michel Hiddy et les deux sapins de Norvège qui flanquaient la grille du notaire Varnum. Devant lui, à l'endroit où la route s'incline vers la vallée de Corbury, l'église dessinait son svelte clocher et les colonnes grêles de son portail classique. La façade demeurait dans l'ombre et d'un côté de l'édifice, les fenêtres du haut formaient sur la muraille une série de taches noires, mais celles du bas étaient éclairées et leur lumière faisait apparaître devant la porte des traces fraîches de pas et de nombreux sillons de véhicules. À l'abri d'un hangar voisin, les traîneaux formaient une longue rangée. Sur l'échine des chevaux, on avait jeté de lourdes peaux de buffle et d'ours. La nuit brillait d'une sérénité admirable. L'air était sec et si pur que la sensation de froid s'atténuait et il semblait à Frome que l'atmosphère n'existait plus. Tout devenait léger entre la terre givrée qui craquait sous ses bottes et la voûte métallique du ciel. On a la sensation du vide, se disait-il, comme si on était dans un tube de Crookes où le vide aurait été fait. Quatre ou cinq années auparavant, il avait suivi les cours d'un institut technique à Worcester et manipulé quelque peu dans un laboratoire grâce à la complaisance d'un professeur de physique. Depuis, les images suggérées par cette expérience lui revenait souvent d'une façon inattendue, malgré la direction si différente que son existence actuelle imposait à ses pensées. La mort de son père et les malheurs subséquents avaient en effet écourté ses études. Il n'avait pu en retirer aucun bénéfice pratique, mais elles avaient nourri son imagination et lui avaient donné l'idée du vaste et nébuleux mystère qui se dérobe derrière les apparences quotidiennes des choses. Tandis qu'il cheminait à grands pas sur la neige, le sentiment de ce mystère embrasait son esprit et avivait encore la bienfaisante exaltation physique déterminée par cette marche rapide. Au bout du village, devant le péristyle de l'église, il s'arrêta pour reprendre haleine. La pente de la route de Corbury s'amorçait un peu au-dessous des sombres sapins qui garnaient l'entrée du notaire Varnum. C'était à cet endroit que les jeunes gens de Starkfield se retrouvaient pour s'exercer à la luge. Par les nuits claires, le carrefour devant l'église retentissait jusqu'à une heure tardive de leurs cris joyeux. Mais ce soir, aucun de leurs petits traîneaux ne dessinait sa tache noire sur la longue et blanche descente. Le silence de minuit planait sur le village. Tout ce qui veillait était rassemblé dans l'église. Un lointain écho d'air à danser et les larges raies d'une lumière dorée arrivaient, confondues, des fenêtres. Le jeune homme contourna l'édifice. Il descendit la rampe et se dirigea vers la porte qui ouvrait sur la salle du rez-de-chaussée. Il fit un crochet à travers la neige non foulée pour éviter la clarté jusqu'à l'angle opposé du bâtiment. Une fois là, tout en prenant garde à rester dans l'ombre, il fit effort pour atteindre la fenêtre la plus voisine. Il dissimula son corps long et mince dans l'obscurité et tendit le cou de manière à pouvoir risquer un œil dans la salle. Ainsi considéré, de la nuit pure et glacée où Ethan demeurait invisible, elle apparaissait, cette grande pièce, en pleine ébullition. Les réflecteurs à gaz projetaient une lumière crue contre ses parois blanchies à la chaux. À l'une des extrémités, le poêle ronflait comme s'il eût contenu dans ses flancs un feu volcanique. Des couples jeunes et nombreux se pressaient sur le plancher. Face à la fenêtre, le long des murs, étaient alignées des chaises de paille. Les femmes plus âgées qui les avaient occupées jusqu'alors venaient de se lever. La musique avait cessé. Le violon et la jeune organiste des dimanches, tout l'orchestre, se resteraient en rade sur un coin de la table dressée pour le souper, où s'offraient encore des restes de pâté de glace. Chacun s'apprêtait à partir et se dirigeait déjà vers le vestiaire, lorsqu'un jeune garçon, ébouriffé et leste, sauta au milieu du plancher et se mit à frapper dans ses mains. Ce geste eut un effet subit. Les musiciens se précipitèrent sur leurs instruments, et bien que divers danseurs fussent déjà vêtus pour le départ, tous reprirent leur place des deux côtés de la salle. Les gens d'âge mûr se glissèrent vers leur siège. L'endiablé jeune homme, plongeant à travers la foule, entraîna jusqu'au bout de la pièce une jeune fille qui avait déjà coiffé une écharpe en laine cerise. Puis il commença de tourner avec elle sur un air de Scottish. Le cœur de Fromm se bit à battre plus fort. Malgré tous ses efforts pour découvrir la jolie tête brune à l'écharpe cerise, un autre regard avait été plus prompt que le sien. Il en souffrit. Le bout en train dansait bien et sa partenaire s'animait au jeu. Son clair visage se balançait en passant sous les mains qui formaient la chaîne. Le tourbillon qui l'emportait, de plus en plus rapide, soulevait de ses épaules l'écharpe qui se déroulait derrière elle. À chaque tour, Fromm apercevait ses lèvres entr'ouvertes et rieuses, les cheveux bruns qui voltigeaient sur son front. Les yeux sombres demeuraient l'unique point fixe dans ce labyrinthe de lignes mouvantes. Les couples tournaient de plus en plus vite. Pour les suivre, les musiciens étaient obligés de torturer leurs instruments. Et cependant, il semblait à Ethan que la Scottish ne finirait jamais. De temps à autre, il détournait son regard de la jeune fille pour le reporter sur son cavalier. Il souffrait de voir celui-ci, dans l'enivrement du plaisir, prendre à l'égard de sa compagne des airs de conquérant. Denis Eady était le fils de Michel Eady, l'ambitieux épicier irlandais, qui avait introduit dans Starkfield avec une souple effronterie les méthodes de commerce nouveau jeu. Parmi les modestes maisons en bois de la grande rue, le bâtiment tout en briques qu'il venait de faire construire témoignait de son succès. Quant au jeune homme, il paraissait disposé à marcher sur les traces paternelles. Il était déjà en train d'appliquer les mêmes procédés à conquérir les jeunes filles du pays. Jusque-là, Ethan s'était contenté de le tenir pour un garçon de peu. Mais à l'heure présente, comme il l'eût cravaché avec plaisir, il s'étonnait en vérité que la jeune fille ne se défiât pas. Comment pouvait-elle supporter que ce gaillard l'enlevât ainsi, visage contre visage? Comment pouvait-elle lui abandonner ses mains? Mais est-ce qu'elle ne sentait pas tout ce qu'il avait d'offensant, ce regard et ce contact? Matty Silver, la danseuse sur qui se concentrait l'attention d'Ethan, était une cousine de sa femme. Les soirs, extrêmement rares où Starkfield s'accordait quelques récréations, elle participait à ses fêtes, et Fromm, vers les 11 heures, venait la chercher pour la ramener à la ferme. C'était Mistress Fromm elle-même qui avait réglé les choses de cette façon lorsque Matty était venu demeurer avec eux. La jeune fille était de Stamford, une des grandes villes industrielles de la Nouvelle-Angleterre. Elle était venue habiter auprès de sa cousine Zéina, qu'elle aidait. Mais comme elle n'était pas rétribuée, Mrs. Fromm, en femme pratique, avait imaginé de lui permettre ses divertissements afin qu'elle sentît moins le contraste entre sa vie antérieure et sa vie nouvelle. Autrement, se disait avec ironie Sam Fromm, jamais elle n'eût songé à procurer des distractions à Matty. Lorsque Zéna lui en avait parlé pour la première fois, Ethan avait bougonné en lui-même. La perspective d'avoir à faire plusieurs miles après sa journée de lutte labeur lui souriait médiocrement. Mais il en était venu bien vite à souhaiter que Starkfield organisât des divertissements chaque soir. Il y avait un an déjà que Matty Silver habitait chez ses cousins. Entre l'instant du réveil et le souper, Fromm avait fréquemment l'occasion de se trouver avec elle. Mais aucun moment dès qu'il passait dans sa compagnie ne lui semblait aussi délicieux que celui où, seul dans la nuit, il s'acheminait à travers la campagne, Matty appuyé au bras d'Ethan et s'efforçant de régler son pas sur celui de son compagnon. Oh, du premier jour, elle l'avait séduit. Il était allé l'attendre en voiture à la gare des Flats, et aussitôt l'arrêt du train, elle était venue droit à lui en criant « Oh, vous devez être Ethan Fromm !» Il la voyait encore, sautant du wagon, son petit bagage à la main, et dès ce moment, rien qu'à observer sa fragile personne, il s'était dit « Elle ne me semble guère taillée pour abattre de la besogne. » Mais en tout cas, elle paraît facile à vivre. Et cependant, ce n'était pas seulement un peu de vie jeune et enthousiaste qui était entré avec elle dans la maison. Elle était plus que cela, plus qu'un petit être serviable et gai, comme il l'avait cru d'abord. Elle savait voir, elle savait écouter. Et Fromm s'aperçut bientôt qu'on pouvait lui montrer les choses ou les lui raconter. Il avait plaisir de constater tout ce qui lui communiquait de sa pensée laissait en elle une trace profonde et des échos qu'il pouvait réveiller à sa guise. C'était la nuit, au cours de ses retours à la ferme, qu'il éprouvait le plus vivement la douceur de cette communion. Il avait toujours été plus sensible que les gens de son entourage aux beautés sans cesse renouvelées de la nature. Ses études, malgré leur soudaine interruption, avaient développé en lui cette sensibilité et même aux heures les plus malheureuses de son existence, les champs et le ciel lui avaient toujours parlé d'une voix souveraine et profonde. Mais son émotion était demeurée intime, douloureuse et secrète. Elle voilait de mélancolie la beauté même qui la faisait naître. Peut-être n'existait-il personne de par le monde pour sentir comme lui. Peut-être était-il la victime unique de ce triste privilège. Et voici que brusquement, il découvrait une autre âme vibrant des mêmes admirations, et cette âme vivait à côté de la sienne. Il découvrait cet être, et cet être habitait sous son toit, mangeait son pain. Elle était à son côté, il pouvait lui dire « Cette constellation là-bas, c'est Orion, cette grande étoile, c'est Aldébaran, et cette grappe argentée qui ressemble à un essaim d'abeilles au travail, ce sont les Pléiades. » Des heures et des heures, il pouvait la tenir en extase devant un bloc de granit surgissant des fougères et dérouler devant son esprit le formidable tableau des âges préhistoriques et des infinies métamorphoses accomplies au cours des siècles. Le fait que l'admiration pour sa science était mêlée à l'intérêt que prenait Matti à ses révélations n'était pas la moindre part de son plaisir. Et il y avait encore d'autres sensations moins définies, mais plus exquises, pour les rapprocher l'un de l'autre, dans un élan de joie silencieuse. Il goûtait, pendant l'hiver, les couchers de soleil pourpre et glacé derrière les collines, la fuite des nuages au-dessus des étules, et sur la neige ensoleillée, les ombres bleues des sapins. Une fois qu'elle lui dit cette pauvre petite phrase si banale, « Oh, croirez voir un tableau ?» Il parut à Fromm que l'art de définir ne pouvait aller plus loin. Il lui semblait que ces mots exprimaient le secret de son âme. Cependant qu'il demeurait ainsi dans la nuit glacée en dehors de l'église, tous ses souvenirs lui remontaient à la mémoire, avec l'amertume des choses qui ne reviendront plus. Il s'étonnait maintenant, tout en attendant Matti, qui tourbillonnait de main en main sous ses yeux, d'avoir pu croire ces tristes propos susceptibles de l'intéresser. Lui, qui n'était jamais gai hors de sa compagnie, il considérait la gaieté de la jeune fille comme une preuve d'indifférence. Le visage qu'elle présentait à ses danseurs était le même, qui s'éclairait toujours à son approche, comme une fenêtre qui reflète un coucher de soleil. Il alla jusqu'à remarquer deux ou trois gestes qui, dans sa fatuité, il s'était cru réservés. C'était une certaine façon de rejeter la tête en arrière, si quelque chose l'amusait, comme pour savourer son rire avant de le laisser fuser hors de ses lèvres. C'était aussi un battement très doux de ses paupières lorsqu'elle était heureuse ou troublée. Cette vue attristait le jeune homme, et son malheur réveillait ses craintes assoupies. Zéna n'avait jamais montré de jalousie à l'égard de Matti, mais depuis quelque temps et de plus en plus, elle se plaignait que sa besogne fût bien lourde. Sans en avoir l'air, elle profitait de toutes les occasions pour mettre en relief l'incapacité de la jeune fille. Zéna avait toujours été maladive, et Fromm était bien obligé d'admettre que, si elle était vraiment aussi souffrante qu'elle le disait, il lui fallait, pour l'aider, un bras plus robuste que celui dont il sentait la légère pression durant les retours à la ferme. Évidemment, Matti n'avait guère de disposition naturelle pour la tenue d'une maison, et son éducation n'avait pas été pour remédier à ce défaut. Elle apprenait très vite, mais elle était oublieuse et rêvait volontiers. Et puis elle n'était pas disposée à prendre sa tâche au sérieux. Itham pensait souvent que l'instinct domestique de la jeune fille pouvait s'éveiller, et ses pâtés, ses pains sans levain devenir l'orgueil du pays, mais les soins du ménage ne l'intéressaient guère en eux-mêmes. Le plus souvent, elle y montrait tant de maladresse que lui-même ne pouvait s'empêcher de la taquiner, mais elle riait alors avec lui et ce rire en commun les rapprochait davantage. D'autre part, il faisait de son mieux pour suppléer à ses efforts. Il se levait de meilleure heure que jadis pour allumer le feu de la cuisine. La nuit venue, il rentrait le bois. Il négligeait même la scierie au profit de la ferme pour aider Mathy dans la journée. Et le samedi, dans la soirée, une fois les femmes endormies, il se glissait dans la cuisine pour laver par terre. Un jour même, Zéna l'avait surpris à la baratte et lui avait lancé en s'en allant un de ses coups d'œil énigmatiques. Récemment, Fromm avait saisi d'autres indices de sa mauvaise humeur, aussi subtils et plus inquiétants. Par un matin vigoureux de cet hiver, comme il s'habillait à la lueur douteuse de la chandelle, il avait entendu derrière lui la voix de sa femme qui était encore couchée. « Le médecin trouve qu'on ne devrait pas me laisser ainsi, sans personne pour m'aider, » disait-elle. Ifam l'avait cru endormi. Ces mots le surprirent, bien qu'il fût habitué à un flot de paroles succédant brusquement à de longs silences mystérieux. Il se tourna vers le lit et la regarda, enfouie dans l'ombre, sous la courte pointe de calicot foncé. Son visage osseux avait sur la blancheur de l'oreiller une teinte terreuse. « Personne pour vous aider ?»« Évidemment, si vous prétendez que nous ne pouvons pas engager une servante lorsque Mathy sera partie. » Fromm se détourna. Le rasoir en main, la joue tendue, il faisait effort pour se voir dans la mauvaise glace accrochée au-dessus de la toilette. « Mais pourquoi diable partirait-elle ? Eh bien, elle se mariera, sans doute, » fit d'une voix traînante sa femme derrière lui. Tout en grattant son menton, Fromm répliqua, « Oh, non, je ne crois pas qu'elle nous quitte tant que vous aurez besoin d'elle. » Mais je voudrais pourtant pas qu'on m'accusât d'empêcher une pauvre fille comme Hattie d'accepter un beau parti comme Denis Idée, riposta l'autre sur un ton de désintéressement dolent. Ethan continuait à regarder son visage dans le miroir. Il rejeta sa tête en arrière et d'une main assurée passa lentement le rasoir de son oreille à son menton. La posture était une suffisante excuse pour ne pas répondre aussitôt. Du reste, le docteur ne comprend pas qu'on me laisse ainsi sans aucune aide, continua Zéna. Il m'a conseillé de vous proposer une fille dont quelqu'un lui a parlé et qui pourrait venir. Ifan posa le rasoir et se prit à rire. Denis ses idées. Oh, s'il ne se présente que lui comme épouseur, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de nous en enquérir d'une servante. Peut-être, mais je voulais vous en parler, insista Zéna. Ethan mettait ses habits en tâtonnant. Oui, soit, mais j'ai pas le temps de parler de cela maintenant. Je suis déjà bien assez en retard, répondit-il. En consultant sous la chandelle sa vieille montre d'argent. Zéna eut l'air d'accepter cette défaite. Elle retomba dans le silence pendant qu'il jetait ses bretelles sur ses épaules et endossait sa veste. Mais comme il se dirigeait vers la porte, elle lâcha sournoisement. « Mais je m'étonne pas si vous êtes en retard. Vous vous rasez tous les matins. » Cette boutade le déconcerta plus que toutes les vagues insinuations au sujet de Denis Idée. C'était un fait que, depuis l'arrivée de Mathy Silver, il avait pris l'habitude de se faire la barbe chaque jour. Mais Zéna semblait si bien dormir quand il se levait dans l'obscurité des matins d'hiver. Il en était venu à s'imaginer en toute naïveté qu'elle n'observait pas ce changement. Cependant, il aurait dû se méfier. Une fois ou deux déjà, il avait été surpris de voir sa femme, après des semaines de silence, faire allusion à certains faits que, sur le moment, elle n'avait pas pu remarquer. Ces derniers temps, néanmoins, il n'y avait pas eu place dans sa pensée pour de pareilles appréhensions. Zéna était devenue pour lui une ombre impalpable. Toute sa vie était concentrée dans les yeux et les paroles de Mathis Silver, et il ne concevait pas qu'il pût en être autrement. Maintenant, debout dans les ténèbres à la porte de l'église, il voyait Matti qui dansait avec Edie, et soudain une nuée de présages funestes et négligés s'abattait sur son bonheur. Chapitre 3. Les danseurs sortaient de la salle, Fromm se rejetant en arrière de la double porte. De sa cachette, il assista à la séparation des groupes, emmitouflés de façon grotesque. De ci, de là, le reflet sautillant d'une lanterne éclairait un visage congestionné par la bonne chère et la danse. Les gens de Starkfield, venus à pied, étaient les premiers à gravir le raidillon qui menait à la grande rue, pendant que les fermiers des environs s'installaient dans leurs traîneaux.
Vous ne voulez pas monter avec nous, Matti ?
Cria une voix de femme dans la foule sous le hangar. Le cœur d'Itham sursauta dans sa poitrine. De l'endroit qu'il occupait, il ne pouvait voir ceux qui sortaient de la salle avant qu'ils eussent un peu dépassé le tambour de la porte. Il entendit répondre une voix claire.
« Eh non, pas par une nuit pareille !»
Matti était donc là, tout à côté de lui. Une planche mince les séparait. Dans un instant, elle allait paraître, elle aussi, et les yeux de Fromm, accoutumés à l'obscurité, la discerneraient entre toutes aussi aisément qu'en plein jour. Un mouvement de timidité le fit reculer encore dans l'ombre. Il demeura là, en silence, invisible. Il était lui-même tout surpris de cette gêne subite. Généralement, au contraire, bien qu'elle fût la plus vive, la plus fine, la plus en dehors, elle lui avait communiqué un peu de son naturel et de son aisance. Mais ce soir, il se sentait aussi gauche, aussi emprunté qu'au temps de ses études, lorsqu'il y hasardait quelques plaisanteries timides avec les jeunes filles de Worcester au bal. Il hésita. Matti sortit seule, puis s'arrêta à quelques pas de lui. Elle avait été à peu près la dernière à quitter la salle. Elle regardait autour d'elle avec inquiétude, étonnée qu'Itham ne se montrât pas. Un homme se rapprocha d'elle, si près que sous leurs manteaux informes, le groupe ne faisait plus qu'une lourde et noire silhouette.
« Est-ce que monsieur votre ami est parti sans vous ? Dites, Matti, ce sera un peu fort. Mais soyez tranquille, je ne le dirai pas à vos petites camarades, je ne suis pas assez méchant pour cela. Et puis tenez, j'ai eu la bonne idée d'amener le cutter de mon vieux. Il vous attend. »
Fromm était exaspéré par ce ton goguenard, mais la voix de la jeune fille répondit incrédule et gaie.
« Mais bonté du ciel, qu'est-ce que vient faire ici le cutter de votre père ?»«
Mais il m'attend pour faire un tour. J'ai sorti le poulain Rouen. Me doutez bien que nous aurions à nous promener ce soir, » fit Eddie, essayant de mettre une note sentimentale dans sa voix de jeune coq. Matti semblait balancer. Fromm vit qu'elle roulait le bout de son écharpe autour de ses doigts. Pour rien au monde, il n'eût bougé, mais il sentait toute son existence suspendue au prochain geste de la jeune fille.
« Attendez une minute, je vais détacher le poulain, » lui dit Denis, en se dirigeant vers le traîneau.
Elle demeura immobile, le regardant s'éloigner dans une attitude si calme que Fromm, dans sa cachette, en souffrait profondément.
Il observa que, pas une fois, elle ne tournait la tête pour découvrir dans la nuit noire une autre silhouette. Elle laissa Denis aider sortir le cheval, monter sur le traîneau et relever la peau d'ours pour lui faire place. Puis, brusquement, elle fit volte-face et courut vers la montée dans la direction du portail de l'église. « Au revoir, bonne promenade » cria-t-elle. Denis se mit à rire, il fouetta son cheval et rejoignit la jeune fille qui avait pris de l'avance. « Allons, voyons, grimpez vite. Ce coin glisse bigrement, » fit-il en penchant pour lui saisir la main. Le rire de la jeune fille fusa de nouveau dans les ténèbres. « Non, 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 décidément, bonne nuit !» Pendant ce dialogue, ils avaient dépassé Fromm, et celui-ci, ne pouvant plus entendre leurs propos, en était réduit à suivre la pantomime que jouaient leurs ombres sur la crête. Il vit Eddie sauter de son cutter et s'avancer vers Matty, en maintenant ses guides sur son bras. Le jeune homme essaya d'atteindre une dernière fois Matty, mais elle l'évita par une retraite agile. Le cœur de Fromm, qu'avait secoué une crainte mortelle, se reprit à battre régulièrement. Quelques secondes plus tard, il entendit tinter les grelots de l'attelage qui s'éloignait. Puis il vit une silhouette isolée traverser la neige devant l'église. Sous l'ombre épaisse que projetaient les sapins de Barnum, il rejoignit Matty qui se retourna. « Oh !» fit-elle, surprise. « Vous croyez donc que je vous avais oublié ?» demanda-t-il avec une joie enfantine. Gravement, elle répondit « Non, je pensais qu'il vous avait sans doute été impossible de venir me chercher. »« Impossible, et pourquoi ?» « Zéna était mal en train aujourd'hui. »« Oh, il y a longtemps qu'elle est couchée. » Il s'arrêta, une question sur les lèvres. « Alors, vous comptiez rentrer seule à la maison ?»« Ah, je ne suis pas peureuse, » dit-elle en souriant. Ils se tenaient tous deux dans l'ombre qui tombait des sapins. Il y avait autour d'eux une solitude infinie et grise qui se déroulait dans le demi-clarté sous les étoiles. Ethan Fromm insista. « Si vous pensiez que je ne viendrais pas, pourquoi n'êtes-vous pas monté avec Denis et Eddie ?»« Mais quoi ? Mais comment savez-vous ? Vous étiez là, je ne vous ai pas vu. » Le cri de surprise de Matty et le rire de Fromm se mêlèrent comme deux ruisseaux d'avril à la fonte des neiges. Ethan avait la sensation d'avoir fait quelque chose de très ingénieux. Afin de prolonger son effet, il chercha un instant une belle phrase, puis dans un brusque grognement d'allégresse, « Allons, venez » dit-il. Il coula son bras sous celui de Matty, comme Midi avait essayé de le faire, et il crut sentir une légère pression. Tous deux demeuraient immobiles. Il faisait si noir sous les sapins que Fromm pouvait à peine deviner la petite tête voisine de son épaule. Des envies lui venaient d'incliner sa joue pour la frôler contre l'écharpe. Il aurait voulu demeurer là toute la nuit avec Matty dans l'obscurité. Elle fit un pas ou deux, puis de nouveau, ils s'arrêtèrent devant la descente rapide de Corbury. La côte gelée était striée d'innombrables traces de luge. On eût dit une glace d'auberge rayée en tous sens par les voyageurs de passage. Avant le coucher de la lune, il y avait ici beaucoup de lugeurs, dit-elle. Ça vous amuserait de faire comme eux un soir ? Demanda Fromm. Oh, Ethan, mais oui, ce serait si bon. Eh bien, c'est entendu. Nous viendrons demain, s'il y a de la lune. Elle s'attarda, se serrant plus étroitement contre lui. Ned Hill et Ruth Varnum ont failli aller donner contre le gros arbre au bas de la pente. Tout le monde les croyait tués. Ethan sentit courir un frisson le long du bras de Matty. Voyez-vous quel malheur, ils sont si heureux.
Oh, Ned Hill ne conduit pas très bien. Mais nous, je suis bien sûr qu'il ne nous arrivera rien, dit-il dédaigneusement.
Il était étonné de s'entendre parler gras comme Denis s'est dit. Mais le contentement l'avait si bien grisé qu'il n'était plus lui-même, et le ton sur lequel Matty avait dit en parlant des fiancés « Ils sont si heureux !» lui avait donné l'impression qu'elle pensait à eux-mêmes.
« L'orme est dangereux pourtant, » répliqua Matty, « on devrait le couper. »
« Est-ce qu'il vous effraierait si vous étiez avec moi ?»«
Mais je vous ai déjà dit que je n'avais jamais peur, » répondit-elle, sur le ton de l'indifférence. Et tout à coup, elle avança d'un pas plus rapide. Les sautes imprévues de son humeur faisaient la joie et le désespoir, dit Anne. Les caprices de Matty étaient innombrables comme les tours d'un oiseau sur la branche. Le fait qu'il n'avait pas le droit de montrer ses sentiments et de provoquer par là même l'expression de ceux de la jeune fille l'entraînait à attacher une importance incalculable à chaque nuance de son regard et de ses paroles. Tantôt il se figurait qu'elle devinait son amour, et alors il tremblait. Et tantôt il était certain qu'elle ne le comprenait pas, et alors il désespérait. Cette nuit même, le poids de toutes ses peines accumulées inclinait la balance du côté du désespoir, et il ressentait d'autant plus douloureusement l'indifférence de Matty après l'accès de joie que lui avait causé le renvoi de Denis Eddy. Fromm montait la Schoolhouse Hill auprès d'elle. Ils marchaient en silence, et ce silence dura jusqu'à ce qu'ils eurent gagné le sentier menant à la scierie. Alors il ne put résister au besoin d'avoir une explication précise.
« Vous m'auriez trouvé tout de suite si vous n'étiez pas retourné danser avec Denis, » fit-il avec embarras. Il lui était impossible de prononcer le nom de son rival sans une contraction de la gorge.
Mais voyons, Ethan, comment pouvais-je savoir que vous étiez là?
Bon, après tout, ce que disent les gens est peut-être vrai, continua-t-il au lieu de lui répondre. Elle s'arrêta court et, dans l'obscurité, il sentit qu'elle s'était soudain tournée vers lui.
Et qu'est-ce qu'ils disent, les gens?
Bon, il serait assez naturel que vous nous quittiez, reprit-il, insistant avec lourdeur tout à sa pensée.
C'est donc cela qu'ils disent ?
Elle se moquait de lui, mais subitement, sa voix se prit à trembler.
Zina n'est pas contente de moi, n'est-ce pas ?
Leurs bras s'étaient détachés. Ils se tenaient immobiles et s'efforçaient dans l'ombre d'apercevoir leur visage.
« Oh, je sais bien que je ne suis pas aussi adroite qu'il le faudrait, » continua-t-elle, tandis qu'Itham cherchait vainement ses mots. « Il y a beaucoup de choses qu'une servante pourrait faire et dont je suis encore incapable. N'ai pas beaucoup de force dans les poignets. Mais si Zena m'avait dirigé, j'aurais tâché. Au lieu de cela, vous savez comme elle parle peu. » Quelquefois, je sens bien qu'elle n'est pas satisfaite, mais je ne sais jamais pourquoi.
Elle regarda son compagnon avec une bouffée d'indignation soudaine.
« Mais vous devriez me le dire, vous, Ethan, vous le devriez, à moins que vous aussi, vous n'ayez assez de moi. »
À moins qu'il n'ait assez d'elle, lui aussi. Ce cri de détresse était comme un baume sur sa blessure saignante. Le ciel d'airain semblait fondre et se résoudre en bienfaisante rosée.
Il s'efforça encore une fois de donner une forme à sa pensée, et de nouveau il ne trouva, son bras posé sur celui de Matty, qu'à grommeler d'une voix sourde « Allons, venez !» Il marchait en silence dans le sentier qu'assombrissaient les épais rideaux des sapins. La scierie faisait là-bas une tache noire sur le clair-obscur de la nuit, et la campagne apparaissait solitaire et grise sous les étoiles. Tantôt il traversait l'ombre d'une route encaissée, tantôt la pénombre légère que tissait un bosquet d'arbres défeuillés. De loin en loin, une ferme isolée se dressait parmi les champs, muette et froide comme une pierre tombale. La soirée était si calme qu'ils entendaient la neige gelée craquer sous leurs pas. Le bruit d'une branche morte qui tombait au loin retentissait parfois comme un coup de fusil. Un renard aboya et Matty se serra contre Ethan, pressant le pas. Enfin, ils reconnurent le buisson de mélèze planté près de la barrière de la ferme. La promenade allait bientôt finir, et à cette idée, Fromm recouvra brusquement la parole. « Alors, bien vrai, Matty, vous n'avez pas envie de nous quitter ?» Il dut baisser la tête pour recueillir sa réponse. « Mais si je m'en allais, Ethan, où irais-je ?» Ce mot d'abord lui déchira le cœur, mais il ressentit une joie profonde de l'accent avec lequel Matty l'avait prononcé. Il serra le bras de la jeune fille contre lui et oublia tout ce qu'il voulait lui dire d'autre. À ce contact, il crut sentir passer dans ses veines la vie même de sa compagne. « Vous ne pleurez pas, Matty. »«
Non, Issam, » répondit-elle d'une voix douce.
Ils arrivaient à la ferme. Près de la barrière, sous les mélèzes, ils longèrent les tombes des Frommes, enclose d'une petite palissade, et qui montrait à travers la neige leurs pierres rongées par le temps. Ethan les regarda avec curiosité comme s'il ne les avait jamais vus. Tant d'années, ces morts avaient paru, dans leur silence paisible, railler son inquiétude, son désir de changement et d'indépendance. « Nous n'avons pu nous échapper, nous autres, » semblait-il dire. « Mais comment pourrais-tu t'en aller, toi ?» Et chaque fois qu'il passait la barrière, pour sortir ou pour entrer, il songeait en frissonnant. « Je continuerai à vivre ici jusqu'à ce que je les rejoigne. » Aujourd'hui, cependant, il n'aspirait plus à aucun départ, et la vue du petit enclos lui procurait une douce sensation de continuité, de stabilité. « Mais nous ne vous laisserons jamais partir, Matty, » murmura-t-il. Et il pensait, en longeant les tombeaux, « Nous continuerons à vivre ensemble dans cette maison, et quelques jours, elle reposera là, près de moi. » Il se complut à cette vision tandis qu'il montait vers la maison. Jamais il ne se sentait aussi près de Matty que lorsqu'il se livrait à ce rêve. Au milieu de la pente, elle buta sur quelque obstacle qu'elle n'avait pas vu et se retint au bras des fans pour établir son équilibre. La chaleur qui pénétra le jeune homme lui sembla comme le prolongement de son rêve. Pour la première fois, il mit son bras autour de la taille de Matty et elle ne se déroba point. Ils continuèrent à marcher, s'abandonnant au courant qui les emportait. Zina Fromm avait l'habitude de se coucher aussitôt après le repas du soir. Les fenêtres de la maison, sans auvent, étaient sombres. Au-dessus de la porte, les tiges mortes d'une clématite pendaient comme l'écharpe de crêpe nouée au loquet pour annoncer une morte. Et cette pensée, « Oh, si c'était pour Zéna, vint à l'esprit des femmes. Puis il se figura nettement sa femme, qui reposait endormie dans leur lit, la bouche un peu ouverte, son râtelier baignant dans un verre d'eau sur la table de nuit. Il faisait le tour par derrière la maison, entre les groseilliers raidis par le froid, afin d'entrer par la porte de la cuisine. Zéna avait coutume, lorsque son mari et Mathy rentraient tard du village, de laisser la clé de la cuisine sous le paillasson. Mithan s'arrêta devant la porte, la tête lourde de rêve. Son bras entourait encore la taille de Mathy. Mathy, commença-t-il, ne sachant pas ce qu'il allait dire. Sans un mot, elle se dégagea doucement. Alors il se baissa pour chercher la clé. « Oh, n'est pas là !» dit-il, se redressant avec promptitude. Ils tournaient leurs regards l'un vers l'autre à travers la nuit glacée. Jamais pareille chose ne leur était advenue. « Peut-être l'a-t-elle oublié ?» dit Mathy d'une voix mal assurée. Mais tous deux savaient bien que Zéna n'oubliait jamais. « Ou bien est-elle tombée dans la neige ?» continua Mathy après un moment de silence pendant lequel ils avaient prêté l'oreille. Ben, « Il faudrait alors qu'on l'eût poussée, » répliqua Fromm sur le même ton. Une idée folle lui traversa la tête. Si des cheminots étaient passés par là et si... Il recommença de prêter l'oreille, s'imaginant qu'il entendait du bruit à l'intérieur de la maison. Puis il chercha une allumette dans sa poche, et s'agenouillant, il promena doucement la flamme au-dessus de la neige amenée sur les marches. Il était encore à terre lorsque ses yeux aperçurent, au-dessous de la porte, un mince rayon de lumière. Mais qui pouvait bien veiller dans la maison silencieuse? Quelqu'un descendait l'escalier, et pour la seconde fois, l'idée des vagabonds l'assaillit. La porte s'ouvrit, et il vit sa femme. Dans l'encadrement noir de la cuisine, elle apparut anguleuse et grande, ramenant d'une main un couvre-lit de calicot matelassé sur sa maigre poitrine, tandis que de l'autre elle portait une lampe. La lumière, levée à la hauteur de son menton, éclairait sa gorge flasque et le poignet saillant de la main qui maintenait le châle improvisé. La flamme donnait un aspect fantomatique au creux et au relief de son visage osseux, encadré de papillotes. Ethan Fromm était encore sous l'impression mystique. L'heure passée avec Mathy. Cette apparition à ses yeux avait la netteté aiguë du dernier rêve qui précède le réveil. Il lui semblait voir sa femme pour la première fois. Zéna s'effaça silencieusement et les deux promeneurs franchirent le seuil. L'humidité sépulcrale de la cuisine contrastait avec le froid sec de la nuit. « Vous nous aviez oubliés, n'est-ce pas, Zéna ?» dit San d'une voix enjouée pendant qu'il ôtait la neige de ses chaussures. « Non, 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 mais j'ai pas laissé la clé parce que j'étais sûr de ne pouvoir pas dormir. » Mathy s'avança, défaisant son manteau. Ses joues et ses lèvres fraîches avaient le ton de son écharpe cerise. « Oh, je suis désolé, Zéna. Ne puis-je pas vous être utile ?»« Non, n'ai pas besoin de rien, » répondit l'autre d'un ton bref, en lui tournant le dos. « Vous auriez pu décroter vos chaussures dehors, » fit-elle observer à son mari. Elle sortit de la cuisine, la première, et s'arrêtant dans l'entrée, elle haussa la lampe à bout de bras pour éclairer l'escalier. Ifan s'arrêta lui aussi au moment de monter. Il affectait de chercher la patère afin d'y accrocher son manteau et sa casquette. Il songeait que les portes des deux chambres à coucher se faisaient face sur l'étroit palier. Et ce soir, tout particulièrement, il lui répugnait que Mathilde vît suivre sa femme.
Oh, je ne vais pas monter tout de suite, dit-il, se détournant pour entrer dans la cuisine.
Zéna le regarda interdite.
Mais pour l'amour du ciel, qu'est-ce que vous voulez encore faire ici à cette heure?
Il faut que je vérifie les comptes de la Syrie. Elle continua de le regarder. La lumière crue de la lampe marquait avec une cruauté impitoyable les lignes maussades de son visage.
« À cette heure-ci, ben, vous allez attraper la mort. Le feu est éteint depuis longtemps. »
Sans répondre, il se dirigea vers la porte. Mais à ce moment, son regard croisa celui de Mathy, et il eut l'impression qu'un fugitif conseil luisait entre ses cils. Aussitôt, ils s'abaissèrent sur ses joues roses, et elle commença de monter devant Zéna.
Mais c'est vrai, il fait effroyablement froid ici, balbutia Ethan.
Et, la tête basse, il emboîta le pas derrière sa femme. Après, il franchit le seuil de leur chambre.